Pour la 17e année, le Polydôme de Clermont-Ferrand accueillit du 18 au 20 novembre 2016 les rendez-vous du carnet du voyage. Pendant ces 3 jours, des conférences, des projections, des ateliers, des expositions et une centaine de carnétistes et d'auteurs invités. Parmi eux, Jean Béliveau, un Québécois sexagénaire qui a parcouru 64 pays du monde sur les 5 continents, entièrement à pied, pendant 11 ans, sans jamais revenir chez lui. Il a raconté son incroyable voyage réalisé entre 2000 et 2011 à partir de ses notes écrites sur le moment et des souvenirs emmagasinés au cours de son périple dans l'ouvrage « L'homme qui marche », paru aux éditions Artaud en 2013. Mais comment en vient-on à décider d'une telle entreprise ? Et comment Jean Béliveau s'est préparé à cette aventure ?
Bon, c'était suite à une crise existentielle qu'on appelle, nous, une écœurantite aiguë au Québec. Et bon, c'est un ras-le-bol de la vie et de la société. Et puis, donc, j'avais une entreprise où j'ai dû fermer les portes, simplement. Et je me suis retrouvé presque dans la rue. J'ai commencé à marcher pour relever ma santé physique et mentale. C'est sûr que j'aurais dû aller voir peut-être un psy, mais finalement, c'était ma psychothérapie, marcher. Et après un bout de temps, un an ou deux après, ça m'est arrivé de partir simplement comme ça. Le trottoir m'appelait. Et c'est comme s'il m'avait parlé. Et il me disait, écoute, je touche toutes les maisons du monde, alors voilà. Et je me suis dit, mais oui, à pied, sans autre mécanique que la biomécanique humaine. Et ça m'a pris et je ne pouvais plus arrêter l'idée. Alors, je suis retourné directement à la maison après cette idée-là, à la course. Et j'ai ouvert l'atlas sur la map monde et j'ai fait différents tracés. Mais c'était celui de la traversée des 5 continents qui m'a appelé. Et ça me donnait comme une décennie, théoriquement. Et là, je me suis dit, ça y est, j'y vais. J'ai senti une force en moi et je n'étais plus capable d'arrêter cette idée-là. J'ai gardé l'idée secrète de ma famille pendant 8 mois. Et j'ai fait l'annonce 3 semaines et demie avant de partir. C'était le départ était le 18 août 2000, mon anniversaire de naissance, 45 ans. Mais avant, ma conjointe du moment, je lui ai dit, écoute, je vais partir pour un tour du monde à pied. Puis elle me dit, mais comment tu vas faire ça? Mais je vais pousser un petit chariot, demander l'hospitalité. Elle me dit, mais tu retournes à la maison de temps en temps? Je dis, non, après tout, je vais revenir en une fois. Après tout le tour du monde. Et elle me dit, mais c'est fini entre nous. Non, je t'aime, mais je sais que tu es capable de vivre ce genre de style de vie. Tu es une fille raisonnable. Et puis et elle me dit, ben vas-y. On verra, on ne sait pas. Hein? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, alors on verra sur le tas comme ça.
Sa compagne Luce ne l'a pas soutenue que moralement. Elle a joué un rôle majeur dans la réussite de l'entreprise de son chum. Depuis Montréal, elle gère le site internet consacré à la grande marche de Jean Béliveau et les nombreuses sollicitations des médias et des curieux. Et une fois par an, le couple se retrouve plusieurs semaines. Très vite, les ambassades canadiennes dans le monde sont tenues au courant de ce voyage et lui apportent un soutien financier. Et de nombreuses entreprises lui fournissent du matériel. Malgré cela, il arrive parfois qu'on se sente seul et isolé. Dans ce cas, il vaut mieux apprivoiser la solitude.
Mais oui, la solitude, hein, c'est quelque chose que je pense qui est vraiment important d'expérimenter. Moi, c'est plutôt les zones arides, le désert, le semi-aride, où il y a peut-être 5 ou 6 zones comme ça où j'ai passé le désert Atacama au Chili, une partie du Sahara dans le Soudan, mais c'est sûr que c'est sur la route. Il y a des gens qui passent un petit peu de temps en temps au nord de l'Australie. Là, c'était 3 mois à 45 degrés de chaleur, assez intense. Puis c'est comme on ressent comme il y a plein de rien. C'est comme il y a un vide qui se crée, un trou dans la poitrine qui s'installe dans les premières semaines. Puis après ça, ce trou-là se remplit de fantaisie. Quand on avance, on se fait des idées. On ne sait pas si on est rendu un prophète ou créé une nouvelle religion ou une nouvelle spiritualité, tellement on se sent en unité. Le Dieu, il n'y a pas personne, il n'y a pas de mal et de bien dans les déserts. Hein? Tu étais là, le concept du mal et du bien n'existe pas. Il y a évolution. Alors, oui, on embarque dans des schèmes de pensée complètement folles. Et puis, Après, ben, tranquillement, on en revient comme un avion qui atterrit et tranquillement, ben, on se recalibre avec l'humain qui est autour de nous. Et puis, mais je pense que il faut vivre l'expérience de la solitude.
Au cours de son très long voyage, Jean Béliveau n'emprunte que des routes. Il préfère pousser un chariot rempli avec ses vêtements, un peu de nourriture et une tente, plutôt que de porter un sac à dos. Soutenu par l'UNESCO, il marche officiellement pour la paix dans le monde et contre la maltraitance des enfants. Cette cause noble lui ouvre de nombreuses portes chez les habitants et lui permet de rencontrer de grandes personnalités, bien qu'au départ il ne savait parler que français.
Je parlais même pas anglais, à peine l'anglais quand je suis parti. J'ai dû apprendre, puis j'ai pas vraiment la tête aux langues. Hein. C'est un dur de comprenure, comme on dit dans notre chez nous. Alors, c'est ça, tranquillement, on apprend des mots, puis on attache ces mots-là à une phrase, et même si c'est pas accordé ou s'il y a pas des ou si c'est en dentis, mais j'ai jamais vraiment vu quelqu'un rire de moi quand je m'exprimais. Les gens sont toujours vraiment sympathiques à ça. Oui, il y a des tribus où j'ai dû parler plutôt avec mes mains, des gestes, hein, comme par exemple dormir, les deux mains sur le côté de la tête, sur le visage, faire comme un oreiller, dormir, manger, porter la main à la bouche, hein, le signe de manger. Alors oui, mais ça se comprenait. C'est sûr que c'était pas toujours compris, mais faut pas dramatiser quand on arrive dans des situations où on se comprend pas beaucoup. Mais j'avais quand même un album que je pouvais me présenter. Et il y a des gens, des fois, qui écrivaient sur place, dans leur langue, une petite note sous les photos, comme ma famille, pourquoi je faisais ça, et etc. Et les gens devenaient carrément sympathiques. J'ai rencontré M. Mandela hein, en Afrique du Sud. Ça a été un grand moment. Et quand je présentais cette photo-là au chef de village, là, j'avais la protection. Et puis, donc, ça a été... C'est pour ça que je dis M. Mandela... Ça a été un élément déterminant pour le succès de la marche. C'est fou. Quand on s'embarque dans quelque chose qui est plus grand que soi, ça nous apporte justement à quelque chose de grand, tel que cette rencontre. Et ça permet aussi de continuer la marche et la démarche sur le thème de la paix et la non-violence pour les enfants. Moi, j'avais vu qu'il y avait une décennie pour la non-violence pour les enfants, 2000 à 2010. Et l'UNESCO dit, nous tous, hein, on est tous propriétaires de l'UNESCO, nous demande de faire la promotion de la paix et la non-violence pour les enfants, de quelque manière que ce soit. Alors, moi, j'ai pris ça comme ça, dédié ma marche à cette décennie-là. Alors, ça a été plus tard que l'UNESCO a vu que je faisais cette marche-là pour la promotion de la non-violence des enfants. Beaucoup d'organismes se sont attachés à la marche, pour promouvoir eux-mêmes via les médias. Ça fait créer un événement quand j'arrivais dans les villes. Et puis, donc, il y avait des levées de fonds ou même des marches simplement pour élever la conscience. Et à Paris, l'UNESCO, ici, quand je suis arrivé, ils ont fait une cérémonie de reconnaissance. Ça a été grandiose. Il y avait 20-25 ambassadeurs de différents pays présents et c'était vraiment touchant d'avoir cette reconnaissance-là pour la contribution de l'UNESCO ici à Paris.
Pendant ces 11 années, l'homme qui mesure plus de 2 mètres change de visage plusieurs fois. Au Soudan, il arbore une barbe touffue et un turban qui le font ressembler à un djihadiste afghan. Dans ce pays, il est accueilli par des gens qui ont une admiration pour Oussama Ben Laden. Malgré le décalage idéologique, il est reçu chaleureusement. Grâce à cette rencontre, la vision du monde bipolaire qu'avait Jean Béliveau jusqu'à présent est totalement bouleversée.
Bon, tristement, il y a eu des événements, mais en dehors des événements, il y a des personnages qui, pour certains groupes, sont des héros. Alors, moi, je faisais pas de jugement sur les événements qui s'étaient passés. Et des fois, je faisais la blague moi-même avec la grande barbe. Mon nom est Osama et les gens riaient. Et c'était pas dramatique vraiment. Et je chantais vraiment dans ces familles-là, dans ces gens qui étaient vraiment sympathisants. Pas nécessairement qu'ils le connaissaient, non, mais comme sympathisants à ce que lui est en train de faire comme acte ou qu'il faisait. Mais donc, c'est... Puis ces gens-là me disaient, ben, c'est bien ce que tu fais pour la paix. Vas-y. Alors, je me suis rendu compte, mais dans quel camp et demi suis-je? Hein? Et puis, je me suis rendu compte aussi que, finalement, le monde entier, chacun de nous, veut la paix. Et la paix, les concepts de paix sont différents entre les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on s'entretue, pour la sainte paix. Alors, oui, c'était justement une évolution de pensée sur ces thèmes-là, les souffrances et les joies de l'humain.